Non nouveau. Il y a quelque chose de l'homme ancien qui disparaît et une métamorphose qui se fait et qui fait que je vis à tous les niveaux en même temps. Le niveau physique, le niveau spirituel, le niveau de l'éternité, le niveau du concret et tous les plans, la communion des personnes, le niveau sur le plan métaphysique et tout. De sorte que cette espèce d'expérience, parce qu'on fait la philosophie d'expérience, j'aime beaucoup prendre ce texte parce que il décrit ce qui se passe lorsqu'il aime. Lorsque l'amour prend tout en lui. C'est Chardon, pour rappeler que je vous avais déjà lu, mais ce truc-là, j'avoue que je ne me lasse pas de le lire, même quand je suis tout seul. Alors, je vous le dis, mais c'est pour faire comprendre. Vous allez voir que, du moins, je vous le dis avant de le commencer, ce qu'on va entendre va rejoindre nos expériences, quelque part. Et comme l'amour, si on est complètement immature, si on n'a pas passé, par exemple, la deuxième épreuve, celle de l'adolescence, qui est malheureusement le cas de la immense majorité de notre génération, c'est sûr qu'on ne va pas connaître, on ne va pas rejoindre une expérience qui implique cette métamorphose de l'amour, donc un amour véritable. Mais on va rejoindre quand même quelque chose que nous avons vécu de manière élémentaires. Il y a différents degrés de profondeur dans l'ordre de l'amour. L'amour est toujours en nous comme une source, comme une possibilité, comme un don. Il s'impose toujours à nous, mais en raison de notre division intime, eh ben, il ne va rejaillir dans notre expérience que dans les plans inférieurs. Et notamment le plan sentimental, qui est un plan animal. Parce qu'au niveau sentimental, je ressens exactement ce que ressent l'albatros, pareil. Et la même chose, c'est la même chose. Ils sont toutes, même, et avec beaucoup moins d'intensité que lui, sur le plan sentimental. Quand vous entendez dans la montagne des chevreuils qui hurlent d'amour, vous sentez très bien que même ce vécu humain, vécu, j'allais dire, partiellement dans la division, est inférieur à ce qu'éprouve l'animal dans son expérience sentimentale. Inouï. Mais ça, c'est sûr. Le Brahme, c'est un qui aime, qui est tout attentif à l'autre, l'autre n'y est pas. Il n'est pas là. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez bien, là, il y a quelque chose de très fort. Bon, le niveau sentimental, le niveau psychologique, le niveau passionnel, le niveau instinctif, le niveau physique, etc., ça, qui sont pas des degrés inférieurs. Rien n'est supérieur ou inférieur dans l'ordre de l'amour. Mais ce qu'il y a de très intéressant et de comprenant, c'est qu'il y a quand même des degrés d'éternité. C'est sûr que plus on rentre dans le point de vue physique, plus on rentre dans l'opacité du temps. Mais il faut que le temps soit brûlé par l'amour, donc il est bien nécessaire qu'il y ait aussi ces degrés de vie qui sont les nôtres. Voilà. Mais vous allez voir que selon notre maturité, le centre de gravité de notre amour, on va pouvoir lire ce texte au niveau physique, au niveau sentimental, au niveau passionnel, au niveau de l'amour de la beauté, au niveau de l'amour de la vérité, au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau surnaturel, au niveau mystique. Les huit niveaux. C'est valable, c'est les mêmes paroles qui sont valables sur les huit niveaux. C'est ça qui est fou. Il fait comprendre à quel point l'amour unifie tout. En respectant tout, il unifie tout sans rien détruire. Ce n'est pas une fusion avec disparition. Et on rentre dans l'anonymat de l'anatement. En sortant du samsara, ce n'est pas du cycle temporel. Non, ce n'est pas ça du tout. Alors, donc, je le relis. C'est bien que c'est ça, hein. Il faut que ça fasse un petit refrain annuel qu'on lise ce texte chaque année. Et puis vous aussi, méditez quand vous ne savez pas. quand vous savez pas quoi faire, quand vous faites faire oraison, hein, pour faire oraison. Moi je sais pas où je suis là. Voilà, vous prenez ça. Vous prenez ça. Et vous rentrez dans l'amour. Vous prenez dans votre corps ce qui est spirituel. Et vous faites passer votre corps physique dans le corps spirituel. Dans le corps spirituel, il y a tout l'amour. Parce que l'amour, si vous voulez, est quelque chose de très très fort. Puisqu'il est catholique. Il est universel. Il traverse tout. Donc dès que vous êtes dans votre corps, à vous plonger dans l'amour, vous avez tous les amours qui sont sortis des mains du Créateur dans l'histoire du temps. C'est ça qui est extraordinaire, cette espèce de réceptivité de notre corps. Il n'y a que le corps qui peut faire ça. L'âme individualise le corps. Le corps individualise quelque part, mais par l'âme. Mais cette capacité de catholicité, c'est par le corps. C'est pour ça que l'Eucharistie, c'est catholique. C'est parce que c'est ceci et mon corps. C'est quelque chose dans le corps, sur le plan de l'amour, qui est un récepteur vivant de tout ce qui a été donné dans l'amour. De sorte que Dieu, mais aussi tous les amoureux d'amour vrai, pas d'amour illusoire, sont présents physiquement en nous quand nous aimons. Et ils font que mon corps physique, avec l'opacité de la matière qu'il implique, et mon psychisme, avec son anarchie psychologique, qui implique les séquelles du péché originel, bah, se rassemble à nouveau dans une unité de personne. Et c'est l'amour des saints, l'amour de tous les amours, l'unité de tous les amours, cette présence personnelle de tous ceux qui ont aimé, non, comme moi j'aime, qui font cette réunification, qui me reboucle les chakras. L'amour guérit ça, la division des chakras. Alors du coup, je n'ai plus, évidemment, cette espèce d'extraordinaire médiumnité énergétique. Mais j'ai une très grande nouveauté. Je suis métamorphosé dans l'amour. Je suis devenu une personne humaine. Cette nouveauté, par rapport à notre expérience habituelle, que le philosophe recherche, et puis que le sage recherche, que le saint recherche, que le chrétien recherche, ce qui est très extraordinaire, c'est de voir comment l'amour respecte tout. Ce n'est que petit à petit que l'amour éternel veut nous faire, c'est Dieu, veut nous faire éprouver les pointes de son amour en notre âme. L'âme, si vous voulez, c'est le corps spirituel. Quand on dit corps spirituel, certaines personnes disent l'âme, en fait c'est l'esprit. Il faut vivre au niveau de l'âme, mais non, c'est pas. Et chez les chrétiens, ont complètement carambolé le langage. Et il y a l'âme, c'est le corps, ce qu'on appelle le corps, le corps, on dit corps éthérique, corps machin, corps spirituel. Corps spirituel, ça me va. Corps, c'est un corps spirituel. En fait, c'est l'âme, le corps spirituel. Quand on dit corps spirituel. Et puis, quand on dit l'âme, cela, eux, ils disent l'âme. Pour eux, c'est le point de vue de l'esprit, quoi. Ils confondent l'esprit et l'âme. Donc, non, bon, moi, je veux bien dire corps spirituel, et puis esprit, si vous voulez. C'est pas une affaire. Donc, dans notre âme, les points de son amour dans notre âme, il le fait peu à peu et par degrés. Car sans ces étapes, hein, les limites de nos résistances humaines nous mettraient dans l'impossibilité de pâtir le côté excessif de leur impression transformante. quelque chose de fulgurant. L'amour, avec un grand A, en effet, comme un feu pénétrant, même dès ses premiers élans d'attirer, semble comme consumer et détruire tout l'intérieur. À tel point que l'esprit ainsi saisi par une attraction véhémente est contraint d'appeler par une ardeur impatiente ce puissant amour. Il le supplie de mettre fin à ses langueurs. Il le supplie de le transformer au plus vite à l'intérieur de l'abîme immense de ses flammes déiformes, de ses flammes toutes pures. C'est que l'amour nous prend, on croit, on touche la sainteté et on la veut. Un amour qui ne réveille pas la connaissance et le choix de la sainteté, ça n'est pas de l'amour. Toutes les traditions sont d'accord là-dessus. Ce que veut également l'esprit, c'est entendre la présence de cet amour qui est en train d'interpeller. D'ailleurs, de son côté, l'amour éternel, Dieu l'invite et l'excite à se donner enfin, à se laisser attirer. Et Dieu montre au cœur un peu de ses reproches pour ses faiblesses, ses froideurs de toujours. Contraste si cruellement avec l'ardeur furieuse de ses flammes. C'est vrai, quand on touche un petit peu l'amour, aussi, c'est plutôt nul, parce que je vis jusqu'à maintenant. Si la présence de cet amour véritable fait entendre ses premiers bruissements à notre corps et à notre âme, ces répercussions de l'âme sur le corps physique lui-même sont à comparer aux éclats les plus violents des tonnerres les plus terribles, lesquels ne donnent pas autant d'émotions et de bouleversements à l'âme sensitive que cette présence, cette voix qui du dedans se fait entendre à celui qui mis en branle. Des enfers, des expressions. Cette voix de l'amour est d'autant plus réelle et véritable que ces impressions qu'elle est en train de produire deviennent de plus en plus efficaces et de plus en plus puissantes. Vous voyez combien, quand on entend un texte comme ça, il faut laisser l'amour pénétrer. C'est un truc qu'on n'essaie pas de comprendre. On laisse la réalité faire ce qu'elle signifie. Un texte est un peu un sacrement et on laisse cette réalité s'opérer en nous. Il ne faut pas croire que c'est une parole stérile, cet appel de l'amour. Cette parole au contraire, où l'amour nous appelle en nous faisant tressaillir, est au contraire remplie de la fécondité ravissante de ce qu'elle porte en elle-même. De tout ce qu'elle signifie. Elle n'est pas vide. C'est pas l'expérience de la vacuité. Elle n'est pas vide, mais elle déverse ses trésors. Insinue ses brûlures. Agissante, et apporte dans ses dons ce qu'elle énonce. Faisant comprendre à l'âme sainte, et plus que fervente. À l'âme sainte, ce que l'amour suréminent veut transformer pour elle. Bientôt, le cœur tellement aimé peut se lever. peine pense-t-il répondre à la voix de Dieu? Vous voyez, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas capable d'aimer Dieu, on ne sera pas capable d'aimer encore moins quelqu'un dont on est amoureux, beaucoup moins. C'est beaucoup plus facile d'aimer Dieu. Là, ici, on fait une expérience d'amour de Dieu, hein, par philosophie naturelle. Mais à peine pense-t-il répondre à la voix de Dieu qu'il est déjà devancé par son amour. Il dit, mais il est devancé par son amour qui, soutenant cette première étincelle qu'il a fait jaillir lui-même dans le corps spirituel, eh bien, l'enflamme et joint ses propres flammes aux siennes. Rencontre formidable où les feux mutuels s'approchent dans des pressions délicieuses et des touches ravissantes. Et après plusieurs feintes, s'entremêlent, s'allient et s'unissent dans des unions saintes, pures et débordantes, si étroitement qu'on les juge. L'amour qui naît en moi, l'amour me fait frémir, il s'impose à moi, et je choisis l'amour, et il va y avoir une espèce de rencontre entre ces deux amours. L'amour que j'incarne, que je réalise, que j'actualise, et que je vais donner, puisqu'il m'a tout donné, je donne ça, plus le mien, donc ça plus fort, et bien pas du tout, l'autre est beaucoup plus fort, et c'est une rencontre formidable. L'âme voudrait tellement posséder toujours ce trésor si agréable qu'elle a reçu sans le chercher et qui s'est offert à elle de si bon gré et si gratuitement qu'elle cherche à tout resserrer dans son intime et s'enfermer à l'intérieur de la capacité éperdument désireuse de son sein pour le retenir, cet amour ici, entièrement absorbé en elle. Mais voilà qu'en même temps, l'amour du côté de Dieu, surajoute, des attractions beaucoup plus puissantes que les précédentes. Sans comparaison. Qu'est-ce que c'est, hein, c'est dingue. Et c'est comme s'il engloutissait l'amour de sa créature qui voit ses propres feux absorber, disparaître, en ceux du bien-aimé. Et puis, à nouveau revenue à elle, elle est décidée à avoir son tour et sa revanche pour abîmer, reprendre, reconquérir, resserrer encore ce qu'il a tant de fois ravi hors d'elle-même. C'est extraordinaire. De la part de Dieu qui nous aime tant, lorsque nous expérimentons son amour, et que nous sommes son bien-aimé, son agapétos. C'est un amour élevant Dieu. Du côté de l'âme, de la personne qui est aimée par l'amour pur de Dieu, l'amour est indécent. Je prends tout l'amour de Dieu pour lui rendre mon amour. Parfois, elle est à lui. Et puis, il est à elle. C'est une attraction. Puis Dieu s'efface pour me laisser faire. Puis il reprend. Alors il n'y a que lui qui m'attire. C'est que c'est extraordinaire. Ce jeu de l'amour dans la relation de la communion de personnes. Il y a un jeu, une pulsation. Et puis Dieu a inventé le cœur pour nous faire comprendre qu'il y a. Parfois est à lui et puis est à elle. Il s'épanche ravissamment en elle. C'est Dieu qui ravit. L'amour de Dieu sort de lui-même. Il rentre dans l'extase parce qu'il retrouve une créature qui, dans une petitesse épouvantable, peut lui donner un amour aussi grand, quelque part. Alors c'est un ravissement pour Dieu. Et après, donc, elle s'écoule délicieusement en lui. Les flammes sacrées de Dieu se laisse gagner à celle de la généreuse épouse. Vous voyez, notre âme, notre corps spirituel devient l'épouse de l'amour. Et l'amour se donne. Je l'accueille comme toute épouse. Et du coup, je me donne à mon tour avec la force de l'époux. Et réciproquement, celle-ci laisse aller les flammes sacrées qui sont dans son cœur dans le lieu d'où elle a tiré celle qui donne amour à l'infini. Finalement, les deux amours se tiennent dans des étreintes si fortes, se serrent avec tant de vigueur, que pour un temps, il serait bien difficile de se rendre compte lequel des deux est plus fort que l'autre. De fait, l'amour qui est reçu, qui te souffle, qui s'impose à toi, et l'amour que tu rends, l'amour que tu vois, l'amour bien, l'amour sain. Donc, ne sont pas moins l'amour donc bien n'est pas moins victorieusement triomphant ni moins puissant que l'amour fin. Voyez. Un amour généreux qui la pousse à tout donner sans exception et se donner elle-même pour embrasser tout ce qui peut être agréable à Dieu. Vous voyez, à l'intention de vie. Tout autant que l'amour absorbant, voilà l'amour qui s'impose à moi, qu'il m'attire. Tout autant, donc l'amour généreux, celui qui veut donner toute sa vie, autant que l'amour absorbant qui pâtit l'amour, l'amour absorbant qui l'emporte, se font l'un à l'autre toutes les impressions anagogiques. Anagogique, c'est transcendantal. Ça crève tous les plafonds, toutes les limites du temps et du lieu. C'est ça, l'anagogique, c'est métaphysique. Ça traverse tout ce qui est physique, tout ce qui a existé. À chaque instant, l'esprit humain voudrait engloutir l'immensité de cet amour pur et éternel de Dieu. Mais pourtant, dès qu'il est sur le point de satisfaire son amour insatiable, il est lui-même dévoré, changé, transformé. Ce combat ne fait qu'accroître leur feu divin. Parce que la lutte exacerbe et irrite de plus en plus leur flamme déiforme. Leurs ardeurs dépassent l'humain. Épuisent leur vitalité suréminente à la divinité pour se renforcer mutuellement dans cette compétition déifique. Une bienheureuse contestation accentue leur hardiesse, le langage du XVIIe siècle, et par une continuelle alternative. Mais c'est joli, je trouve ça. Je trouve ça mieux que ce Molière. Et par une continuelle alternative digne de l'amour souverain, tantôt le bien-aimé n'est plus à l'âme, tantôt l'âme n'est plus à Dieu, et par un flux et reflux continuel de direction sacrée, jamais l'un n'appartient ni ne donne si absolument à l'autre, ni l'autre n'a encore été uni au premier avec tant d'intimité à chaque fois. C'est une révolution. C'est ce que nous voyons dans ces racontes de l'amour où tu te donnes et l'amour où tu reçois. De l'amour pratique et de l'amour fruitif, de l'amour agissant et de l'amour pâtissant, de la charité en acte et de la charité en souffrance, de la dilection dont nous avons l'initiative et de la dilection par laquelle nous recevons plus que nous ne produisons, soit que l'un se saisisse de l'autre comme dans un rapt, soit que l'autre à son tour engloutisse son aimable rival. Cette guerre impressionnante qu'ils se font, ces assouillants qu'ils s'entrelancent, avec lesquels ils se jettent l'un sur l'autre, excitent tant de feu et de flamme divine qu'on pourrait aller jusqu'à croire que l'amour du Créateur a disparu dans l'amour de la créature. Ça. Et que ce dernier, l'amour de ton amour à toi, est dévoré par l'immense capacité de celui-là. Et puisqu'ils s'entrecroisent d'assaut et de contre-attaque, d'amour et de contre-amour. Ah, puisque tu es en même temps, je vais t'aimer encore plus. C'est ça. D'amour et de contre-amour, ils s'alimentent, s'entraident et s'accroissent tous deux à la vue l'un de l'autre. La vigueur enflammée de leur courage s'excite dans les violentes mêlées de leurs opérations. Et les actes qu'ils produisent lorsque c'est à son tour de triompher dans l'alternance de la prise servent d'aiguillon impétueux à celui qui volontiers avoue avoir été vaincu, mais pour vaincre à son tour. Il est bien vrai et fréquent que l'amour éternel de Dieu fasse comme semblant d'être le plus faible, en cédant, dirait-on, par des fuites étudiées qu'il ménage avec une souplesse délicate et digne de son amour souverain. Oui, je vous signale que c'est une... C'est un petit commentaire, voilà, parce que souvent c'est à partir d'un texte. Et le texte que Chardon est en train de commenter, c'est un texte de l'Évangile, où, vous savez, Jésus se trouve avec les pèlerins d'Emmaüs, et puis il est écrit, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Et ce texte est simplement un petit commentaire de ce qu'il a vécu quand l'Esprit Saint dans l'amour lui a fait comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus et dans le cœur du pèlerin d'Emmaüs qui le dit. Il a expérimenté ça, cette lutte extraordinaire, et cet amour-là, cette lutte. C'est ce passage. Jésus finit d'aller plus loin, il s'est passé une expérience d'amour qui lui a été communiquée dans sa méditation et qu'il essaie de le transcrire ici. Quatre pages sont juste un petit commentaire qu'il expérimente dans l'amour de Dieu, dans l'amour de l'amour. À travers ce passage, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Il est vrai que l'amour éternel de Dieu fasse comme semblant d'être le plus faible en cédant, dirait-on, par des fuites étudiées qu'il ménage avec une souplesse délicate et digne de son amour souverain. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Et ces feintes excitent et irritent de plus en plus les ardeurs généreuses et la ferveur de l'âme qu'il aime. Vous voyez, dans l'Évangile, on voit « Non, 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 reste avec nous ben, !» Oui, mais voilà, et puis ça s'arrête là. Mais vous comprenez que l'Évangile, c'est il faut vivre l'amour qu'il véhicule. C'est le grand véhicule de l'Écriture. Chaque mot de l'Écriture est un véhicule qui peut nous faire rentrer dans une sainteté totale. Le Verbe de Dieu, donc l'Écriture, la parole de Dieu, véhicule l'Esprit Saint, l'amour total. C'est comme ça qu'on lit la Bible, hein. On ne peut pas le dire autrement. Et ces saintes excitent et irritent de plus en plus les ardeurs généreuses et la ferveur de l'âme qu'il aime. Quand il approche, c'est pour provoquer son amour. Et s'il s'enfuit, c'est pour lui accorder l'occasion d'accroître l'intensité de son désir. Se donne-t-il à l'improviste ? Et voilà que dans son intimité, à nouveau découverte en des profondeurs qu'elle n'avait même pas encore soupçonnées, l'âme s'épanouissant immédiatement à nouveau ouvre ses bras pour recevoir son étreinte embrasée. Et elle n'a pas sitôt commencé à éprouver les ardeurs de ses feux divins que, échappant du milieu de ses étreintes, il s'enfuit d'elle au moment même où, au milieu de transport amoureusement délicieux, elle pensait être en possession de son bonheur définitif. Quelquefois, il demeure dans une telle égalité, ou plutôt dans un tel étourdissement, qu'ils sont comme suspendus, extasiés et ravis de leur perfection mutuelle. C'est trop fort. Et on dirait que pour un temps, ils se sont d'accord pour jouir d'un répit paisible dans la trêve qu'ils se sont accordés. Mais la véhémence de l'amour étant l'ennemi naturel de l'oisiveté, l'amour de lui-même s'inquiète, bouillonne, éclate sous l'effet de ses propres aiguillons et il recommence avec tant d'efforts dans l'absolu des prises anagogiques qu'on pourrait expliquer qu'il tâche d'effacer le reproche et la honte de leur sainte paresse par une mêlée qui doivent aboutir à la mort et à l'expiration d'au moins l'un des deux. En vérité, cette suréminente élévation d'un amour au-delà de la ferveur, la sainteté, ne peut pas durer plus longtemps sans séparer l'âme du corps de celui qui est engagé dans cet admirable exercice. Il faut bientôt que l'amour pratique, c'est-à-dire l'amour par lequel tu donnes la et c'est le Saint-Esprit qui, en toi, donne la réponse à l'amour de Dieu. Dieu te donne son amour en donnant l'amour du Fils. Et de toi jaillit la réponse. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un combat à égalité. À partir de toi, l'Esprit Saint rend gloire à Dieu. Tu as donné son amour, toi tu lui rends. Et c'est l'Esprit Saint. Donc cet amour pratique par lequel tu as l'initiative, c'est l'Esprit Saint qui fait avec toi. Donc c'est l'amour par lequel le Saint-Esprit, car c'est bien lui, meut et pousse le cœur profond de l'homme à l'union intime avec le Père, par des mouvements pleins d'impétuosité et de véhémence, que cet amour passe donc insensiblement la main au fruitif, qui va peu à peu le liquéfier, l'obliger dans l'intensification excessive de ses langueurs à expirer délicieusement au milieu des flammes de son heureux conjoint, où il est absorbé, enseveli et transformé. Voilà ce que c'est qu'un homme nouveau. C'est quand on arrive là. Et on peut faire l'expérience tous les jours. Non pas que l'âme qui a choisi de donner sa vie à l'amour, non pas que cette âme, dans une avidité amoureusement insatiable, ne s'y efforce plus, mais plus elle s'efforce de saisir et d'engloutir encore en elle la totalité de l'amour divin, plus elle y travaille, plus elle est proche de réussir dans son élan, plus profondément elle est absorbée et dévorée par cet amour. Et il finit par la percer, la transpercer dans toutes ses affections, la pénétrer au plus profond de toutes ses facultés, de toutes ses puissances. Et il réalise lui-même cette suréminente transformation en quoi consiste la plus grande union que l'on peut avoir dans cette vie et que nous devons à la souveraine fécondité de la grâce. Quelle expiration! C'est une expiration. La mort et l'amour, vous voyez, c'est la même chose. C'est la même expérience. Être emporté dans cet écoulement, agoniser dans cette aspiration, être englouti dans cette expiration d'amour. Quelle mort, quelle vie, ça c'est la vie. Un amour éternel où l'amour de la créature est vaincu pour être désormais éternel. Et qui n'a plus jamais, et qui n'a jamais un amour donc humain, qui n'a jamais été autant amour humain que depuis qu'il est sans amour humain. Ça c'est très joli. Limpide et débordante pureté, sainteté de l'amour, l'âme sainte vit d'amour, ou plutôt c'est l'amour qui vit en elle plus que elle qui ne vit dans l'amour. L'amour qui la transportait impétueusement dans l'amour de l'onction divine a comme mais l'amour d'adhérence, de quiétude, de repos, de fruition, de jouissance, n'est-ce pas? Avec quel subit, quel pâtit, avec lequel elle est agie, embrasse Dieu vivant dans son sein même, où il est établi sans second et sans compétiteur. C'est l'amour abandonné, ce n'est plus l'amour assaillant, non pas d'ailleurs qu'on n'assaille plus ou qu'on ne veut plus assailler. Plus de transport, mais une retenue, une suspension dans la possession. Plus d'agitation, ni d'impulsion, mais un très profond et ravissant silence que l'éternité donne pour s'introduire et pour irradier l'amour de sa béatitude. Au-delà de ça, c'est la gloire. Nous voilà littéralement liquéfiés dans l'amour, comme évaporés dans la fusion, et qui n'est pas une fusion, sentez bien. Ce que l'âme exprime en disant qu'elle est délicieusement fondue à la voix du bien-aimé, ce n'est plus la liquéfaction des débuts, des premiers pas de l'amour que nous avions vu, où elle s'accommodait volontairement à l'intérieur d'un libre écoulement personnel de ses tendresses admirables, aux désirs et aux inspirations adorables de la volonté d'amour de Dieu, s'introduisant et s'épanchant dans son bon plaisir. Non, ce n'est plus cette liquéfaction-là, mais c'est la liquéfaction où l'amour pratique, où son initiative est vaincue, où l'amour fruitif demeure victorieux. Il n'y a plus que l'amour de Dieu qui a transformé et unifié la personne pour qu'elle devienne une personne éternellement. Ma personne devient une personne éternellement. Je passe de l'homme ancien à l'homme réel, à l'homme nouveau. Donc, elle contraint celui-là d'expirer perpétuellement, dans mon sein, de se fondre, de se couler, de se transformer, de se déifier en ces flammes triomphantes. Et mort existe. Mais l'amour est plus fort que la mort. Et ça, on en fait l'expérience, ou on n'en fait pas l'expérience. On dit c'est un grand rêve, c'est un beau poème. Ceux qui n'en font qu'une expérience de la beauté, vous voyez, sentimentale, bah, ils vont dire c'est un rêve. Bon, alors, tout ça pour dire qu'il ne me reste plus qu'une demi-heure pour foncer. Pas, mais j'espère que vous avez bien vu que le texte que nous venons de lire, qui, où là, ce chardon ici qui est là, donne, bah, il exprime son expérience d'amour, vous voyez, qui est une expérience humaine. Hein. D'ailleurs, s'il peut l'exprimer, c'est que c'est une expérience philosophique. C'est une expérience qui n'est pas philosophique, qui est complètement surnaturelle. C'est, on ne peut pas l'exprimer quelque part. Inexprimable. On peut donner des jalons, mais c'est tout. Bah, je me rappelle un jour, j'ai lu ça à une de mes cousines. Elle m'a dit, oui, c'est très beau, mais c'est une description d'amour physique, quoi. Elle dit, ouais, moi, c'est pour moi, c'est l'amour physique, c'est ça, c'est vrai. C'est comme ça, l'amour physique. Je reconnais, je n'y ai pas pensé. Mais tu vas dire, c'est marrant parce que j'aime beaucoup ce texte parce que très bon, excellent pour voir dans lequel des 33 degrés de l'amour se trouve notre centre de gravité actuel. Très très bon. Excellent. C'est pas, bah oui, ça, au niveau passionnel, c'est vrai. Quand on est amoureux, non. Ah oui, ça c'est vrai, au plan passionnel, ça oui. J'étais amoureux, et coup de foudre, j'ai eu quelque chose comme ça. Ah oui, là, je reconnais, là. Passionnel. C'est tout. Hein, sentimental. Alors, c'est le rêve, l'artiste, vous voyez. Mais alors, sur le plan humain, sur le plan de la sagesse, sur le plan de la contemplation, simplement, on a une contemplation qui fait que c'est le corps qui entièrement brûle, là. En même temps que l'esprit là, et puis sur le plan surnaturel et mystique, moi je sais pas, je trouve ça extraordinaire. Sur tous les plans, chaque parole est vraie. C'est ça que je trouve beau dans ce texte. C'est pour ça qu'il me paraît authentique comme expérience. Ça c'est la signature, vous voyez. Que c'est une expérience réelle. Et puis que le type est intelligent, et donc il est capable, parce qu'il est contemplatif, de l'exprimer avec des une manière vraie. D'une manière qui n'est pas illusoire. Oui. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à regarder là. Hein. Donc, tout ça pour nous exciter, n'est-ce pas, à essayer de comprendre un petit peu plus cette histoire d'amour. Si bon.